Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre, nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Les combats ont repris hier à Alep, en Syrie. La pause décrétée par l'armée russe n'était pas prévue pour durer plus de 3 jours. Elle n'a pas été prolongée. Cela fait un mois désormais que la deuxième ville du pays subit des frappes aériennes de très forte intensité, sans être décisive. Malgré le pilonnage, les quartiers rebelles résistent aux assauts du régime. Combien durera l'autre grande bataille du moment, celle qui vient d'être engagée pour reprendre la ville de Mossoul en Irak ? L'offensive a commencé il y a tout juste une semaine. Les États-Unis, qui dirigent la coalition militaire, disent avoir rempli pour l'instant tous leurs objectifs. L'État islamique s'était emparé de la ville en juin 2014, son principal et dernier bastion à ce jour en terre irakienne. Beaucoup plus au sud, mais toujours au Moyen-Orient, se joue un autre conflit et une autre bataille. Au Yémen, dans les rues mêmes de sa capitale, Sanaa, comme à Alep et comme à Mossoul, la population vit au rythme des incessants raids aériens. Un cessez-le-feu avait bien été réclamé par les Nations Unies, mais ni la coalition arabe menée par l'Arabie Saoudite, ni les rebelles chiites qui contrôlent la ville ne l'ont respecté. Les affrontements durent depuis mars 2015, ils ont fait près de 7000 morts. Alors ces trois batailles simultanées dans des villes importantes pour chacun des pays concernés ont-elles quelque chose à voir les unes avec les autres? Et faut-il y voir la manifestation d'un seul et même conflit à l'échelle régionale? Alep, Mossoul, Sanaa, même combat? C'est la question que nous allons poser ce soir à nos trois invités. Loulou Al-Rachid, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chercheuse au CERI, à Sciences Po, membre du programme de recherche WAFAM. Vous allez nous dire de quoi il s'agit, WAFAM.
WAFAM, c'est un programme de recherche qui s'est créé au lendemain des printemps arabes et qui réfléchit justement sur les modalités de sortie de l'autoritarisme arabe. Et malheureusement, une des modalités jusqu'à présent, c'est la violence, c'est la guerre civile. Et donc le WAFAM correspond à l'acronyme anglais « When authoritarianism fails in the Arab world ». Voilà. Qu'est-ce qui se passe lorsque cet autoritarisme qui a occupé les politologues pendant plusieurs décennies, qu'est-ce qui se passe lorsque cet autoritarisme s'effondre, lorsque les sociétés aussi s'effondrent? Quelles sont les modalités de stabilisation de ces sociétés? Pour le moment, on est encore dans l'analyse de cet effondrement et de ces modalités de Sanaa.
Et sans doute que cette analyse va nous servir ce soir. Voilà, je préférais vous laisser la charge d'expliquer ce que signifiait cet acronyme. Deuxième invité, Hamid Bouazarslan, bonsoir.
Bonsoir.
Historien, directeur d'études à l'EHESS, l'école des hautes études en sciences sociales. Vous avez publié aux éditions du CNRS « Révolution, état de violence, Moyen-Orient 2011-2015 ». Sans doute qu'on pourrait aller jusqu'à 2016. Voilà, s'agissant de l'analyse que vous faites de la région. Et puis, troisième invité, Pierre-Jean Louisard, bonsoir.
Bonsoir.
Historien également, directeur de recherche au CNRS. Vous avez publié l'an dernier aux éditions de la Découverte le piège Daesh. Et puis, on peut trouver sur Internet, pour l'instant, sur le site Romatre Press.
Oh,
je ne sais pas comment on le prononce. En tout cas, on a mis le lien sur
Romatre
notre site.
Romatre Press, c'est une maison d'édition italienne liée à l'université de Rome, Romatre. Le livre s'intitule « Vers un nouveau Moyen-Orient ». Il rassemble parmi les meilleurs spécialistes des pays dont nous allons parler aujourd'hui. Il est accessible gratuitement et imprimable gratuitement sur Internet.
Voilà, il a été publié il y a seulement quelques semaines de cela. Alors, je voudrais d'abord avoir votre appréciation, puisqu'on est parti de cette intuition que si ces trois batailles importantes qui ont lieu en ce moment, celle d'Alep, celle de Mossoul et celle de Sanaa, avaient lieu justement au même moment, c'est peut-être parce que cette simultanéité n'était pas tout à fait lié au hasard. Est-ce que c'est un hasard ou est-ce que ça n'en est pas un, Hamid Bouazarslan?
Je pense qu'on peut l'expliquer à partir du cycle historique qui commence en 2011. Les contestations révolutionnaires de 2011 étaient avant tout les traductions des demandes, des revendications des sociétés d'intégrer la cité démocratique bourgeoise telle qu'on le connaît dans une partie du monde. Mais en même temps, on voit combien à l'effondrement des États a répondu aussi l'effondrement des sociétés. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, dans des pays où il y a une guerre civile, où il y a une fragmentation spatiale extrêmement accéléré, comme en Libye, comme au Yémen, comme en Syrie, en Irak. On est en face des États et des sociétés assez jeunes qui ont été constitués dans les années 1920, qui ont eu une histoire assez mouvementée, où l'État n'a jamais servi, n'a jamais accompli un rôle de fédération, de fédérateur. Ce sont des sociétés qui ont pu se fragmenter assez facilement, notamment à la suite des réponses des États aux contestations révolutionnaires.
Donc un même processus de décomposition qui fait qu'on se retrouve aujourd'hui dans des situations, évidemment, qui sont chacune très distinctes les unes des autres, mais enfin avec quelques points communs.
Voilà, avec quelques points communs. Et on a l'impression aussi que depuis 2011, on est en face d'un processus intégré. 2011 était un processus intégré dans le monde arabe. Pratiquement dans tous les pays arabes, les lignes de force ont bougé. Et aujourd'hui, on peut se demander si on n'est pas en face d'une guerre civile arabe qui va finalement de la Libye jusqu'à l'Irak et la Syrie et au Yémen, si on n'est pas aussi en face d'une guerre confessionnelle à l'échelle du monde musulman, puisque des acteurs non arabes comme la Turquie et l'Arabie Saoudite et l'Iran, voire au-delà le Pakistan et l'Afghanistan, jouent d'une manière ou d'une autre un rôle très important dans ces conflits. Donc on n'est pas du tout, on est à la fois dans des conflits qui ont chacun sa propre historicité. Le conflit yéménite ne peut se comprendre qu'à partir de l'histoire yéménite. Il en va de même du conflit libyen. Et de l'autre côté, ces conflits sont désormais des conflits qui se répondent les uns et les autres et qui s'aggravent aussi sans doute par une transhumance militaire à l'échelle du monde musulman.
Voilà, il y a beaucoup d'éléments de réflexion dans votre première réponse, Amit Bozarslan. Ce sera justement l'occasion à travers cette émission de les examiner les uns et les autres. Mais je retiens parmi les expressions que vous avez utilisées pour justement évoquer cette simultanéité dans ces grandes batailles, dans ces conflits au Yémen, en Syrie et en Irak, l'idée d'une guerre civile arabe. Loulou El-Rachid et Pierre-Jean-Louis Zard, est-ce que vous reprendriez les mêmes termes, Loulou El-Rachid?
Je suis entièrement d'accord sur le fait que nous sommes confrontés à des situations de guerre civile. La dimension arabe est discutable, mais il est évident qu'on est face à des sociétés qui sont qui se livrent à des guerres. On peut appeler ça une guerre civile. Bourdieu appellerait ça une guerre sociologique. On peut aussi dire que c'est une guerre de tous contre tous. Certainement, ce qui se joue, la violence aujourd'hui est destructrice, mais elle est aussi dans cette violence qui atteint des niveaux et une échelle sans précédent dans la région, cette violence aussi est annonciatrice d'un ordre, je dirais peut-être post-État arabe tel que nous l'avons connu jusqu'à présent. Il est évident que au Yémen, en Syrie et en Irak, le retour au statu quo ante est impossible. Cet État centralisateur, jacobin, répressif, cet État qui se voulait fédérateur et qui ne faisait que semer la division pour mieux se maintenir au pouvoir, cet État est révolu. On ne reviendra jamais sur cette forme d'État, sur cette forme de pouvoir centralisé.
Mais est-ce que vous dites, Loulou El-Rachid, que ce sont des guerres de même nature puisque ce sont des guerres civiles, ou bien est-ce qu'il s'agit d'une seule et même guerre qui serait une guerre civile arabe, ce qui n'est pas tout à fait la même chose?
Je suis entièrement d'accord avec mon collègue. Il y a une matrice qui est née de ces printemps arabes, de ces soulèvements massifs que la région a connus à partir de 2010-2011. L'Irak est peut-être un cas qui n'est pas si différent, mais c'est-à-dire que l'invasion américaine de 2003 n'a pas rendu possible ce soulèvement. La voie empruntée était différente. C'était celle d'un changement imposé de l'extérieur, mais qui néanmoins, je veux dire, traduisait aussi des changements en profondeur dans la société irakienne. Mais en tout cas, on est dans cette matrice ouverte par les printemps arabes. Il est évident que le local a une dimension extrêmement forte, résistante, coriace, et qu'on ne peut pas faire abstraction des dynamiques locales dans chaque conflit. Même si je suis entièrement d'accord sur le fait qu'on peut dire qu'il y a une même matrice de la violence qui est née de l'effondrement de l'État et de son pendant, qui est l'effondrement de ces sociétés, l'effondrement de toute, ou l'impossibilité de toute régulation dans ces sociétés, de toute régulation autre que la violence, que le déchaînement de violence entre toutes les composantes de la société.
Pierre-Jean-Louis Zard, des dynamiques locales, mais une même matrice pour expliquer ces conflits?
Des dynamiques locales, certainement, mais il y a une matrice générale qui, à mon avis, se résume en deux points communs extrêmement forts. Le premier, c'est un conflit à l'échelle régionale, arabe et même bien au-delà, entre les deux branches de l'islam, le sunnisme et le chiisme, et qui tire son origine dans un processus d'émancipation des communautés chiites arabes du haut des Cimène, qui avait pour point commun d'être dominé socialement et politiquement par des régimes sunnites. Les printemps arabes ont mis à jour des revendications par le biais des sociétés civiles, mais des revendications qui n'ont pas été entendues par les États en place, qui étaient eux-mêmes l'objet de contrôle de la part de certaines de ces minorités, qui, depuis la fondation de l'État, considèrent que l'État doit être leur propriété privée. Et le deuxième point commun, c'est donc l'effondrement de ces États. L'État syrien et l'État irakien ont pour point commun d'être des créations mandataires, coloniales. Il faut rappeler qu'ils se sont imposés, surtout l'État irakien, contre leur société. L'État irakien était en guerre permanente avec sa population kurde. Il a été en guerre très souvent contre sa population chiite. Le régime syrien a connu des périodes que j'appelle d'illusion nationale, où on a cru que grâce à la réforme sociale ou à la réforme nationale, on allait pouvoir résoudre les problèmes, notamment confessionnels, et on a vu que ça n'a pas été le cas, puisque le régime de Bachar el-Assad a joué la carte confessionnelle pour tenter de se sauver. Et au Yémen, nous avons un contexte différent, puisque c'est...
Alors, l'État est beaucoup plus récent, hein, c'est 1990, c'est la création du Yémen à unifier.
Et c'est surtout le fait que nous n'avons pas affaire à une communauté chiite qui a été dominée. C'était l'inverse. Pendant 1000 ans, les Zaydites, qui sont une branche du chiisme, donc qui s'est séparée du chiisme au 8e siècle, a dominé les hauts plateaux yéménites. Donc là, c'est un régime qui a duré... qui a dominé le pays pendant très longtemps, mais déchu en 1962, qui revient aujourd'hui par le biais du conflit confessionnel, parce qu'ils ont perdu le pouvoir et qu'il y a du coup une radicalisation confessionnelle. Mais on voit très bien, par exemple, à la façon dont les rebelles houssistes du Yémen, qui n'ont jamais eu de relations étroites avec l'Iran ou avec les chiites du haut des Cimène, aujourd'hui se sentent solidaires de qui ? Eh bien, du régime syrien. Alors qu'au début de 2011, des printemps arabes, ils étaient solidaires de l'opposition. Cela veut dire que c'est la logique confessionnelle qui l'a emporté.
Et cette logique confessionnelle, ça en fait des conflits régionaux et qui ont une même logique régionale, Hamid Bouzarslan, c'est-à-dire à partir du moment où on a les sunnites d'un côté et les chiites de l'autre, on a forcément quelque part l'Arabie saoudite d'un côté et l'Iran de l'autre.
Cela n'était pas une fatalité parce que lorsqu'on regarde l'histoire du XXe siècle au Moyen-Orient, on a l'impression qu'on fait partie effectivement de ce qu'on appelait le tricontinental, l'Asie, l'Amérique latine et l'Afrique, censées être unies dans une même lutte. La gauche a pu être très importante, très très forte, dans certaines, notamment dans ces trois pays. Donc je pense qu'effectivement on est en face non seulement de l'épuisement de l'État, de la dégradation de l'État en une force milicienne qui coexiste avec d'autres milices, mais on est aussi en face d'un épuisement du politique. Et je crois qu'en partie, c'est cet épuisement de politique qui explique pourquoi aujourd'hui, d'une manière aussi massive, on a recours à la logique confessionnelle. La logique confessionnelle veut dire quoi ? La logique confessionnelle, c'est l'assassinat déjà du troisième calife de l'islam, Outhman, très peu de temps après la mort du prophète. C'est Karbala, l'assassinat, le meurtre du petit-fils de Hussein. Et je dirais qu'entre le 7e siècle et le 10e siècle, les légistes de l'islam ont passé leur temps à vouloir faire oublier cet épisode pour pouvoir assurer la cohésion du social, au lieu de regarder directement ce qui s'était passé et finalement sortir de cette période avec une certaine réflexivité. Et on voit que cette question confessionnelle revient de manière épisodique. Au XVIe siècle, on a des guerres confessionnelles. Et puis dans les années 1920, on a des tensions confessionnelles. Et aujourd'hui, à un moment où les sociétés sont extrêmement fragmentées, et Pierre-Jean l'a souligné, la confessionnalisation a été aussi imposé par l'État. C'est l'État qui a commencé à fragmenter les territoires syriens et irakiens et aussi yéménites. Donc je pense qu'effectivement, à des moments de crise, la question confessionnelle revient et la confession apporte des ressources de sacralisation, et ces ressources de sacralisation expliquent aussi en partie ces dynamiques. Donc je dirais qu'effectivement, la question confessionnelle ne domine pas tous les pays arabes, parce que pour un Tunisien, la question chiite ou la question alaouite ne fait absolument aucun sens. En Libye, qui se trouve dans une situation de fragmentation très accélérée, la question confessionnelle n'a pas de sens. Mais dès qu'on est au Proche-Orient, au Yémen, en Syrie, en Irak et au Liban, la question confessionnelle est définitivement là.
Pierre-Jean Luizard.
Oui, je crois qu'aujourd'hui, il y a une globalisation du conflit et une violence qui, hélas, peut permettre de dire que nous sommes confrontés à une nouvelle fitna. C'est le nom arabe de la discorde entre musulmans, donc qui opposait sunnites et chiites, donc à laquelle Hamid faisait référence. Mais il serait, je crois, abusif de dire qu'il y a un conflit millénaire entre sunnites et chiites. Le conflit actuel est causé par des enjeux modernes qui remontent au 19e et au 18e siècle, et notamment en Irak, à la hiérarchie au sein du monde arabe bédouin, qui a vu une connotation confessionnelle au fait que certaines tribus nomades puissent avoir une domination militaire et politique sur des tribus en voie de sédentarisation, des paysans ou semi-sédentarisés, et qui, pour la plupart, ont été confrontés à une dégradation de leur statut et qui, du coup, se sont convertis au chiisme. La plupart des chiites irakiens, aujourd'hui, sont d'anciens sunnites, et certains se sont convertis au chiisme à l'époque moderne. Donc, il y a un enjeu social propre à la hiérarchie sociale du monde bédouin arabe qui explique un conflit qui remonte, en fait, donc à l'arrivée en Mésopotamie et en Syrie de vagues de migration bédouine et au rejet du statut d'asservissement qui a été la conséquence de la sédentarisation.
Alors on voit déjà à travers les quelques minutes qu'on a passées sur cette discussion que les points communs finalement sont quand même assez nombreux du point de vue de la matrice, du point de vue de la logique confessionnelle qui est à l'œuvre dans ces différents conflits. Est-ce que ça veut dire, Loulou Al-Rachid, que pour comprendre ce qui se passe dans chacun de ces pays, il faut forcément s'intéresser à ce qui se passe chez le voisin plus ou moins proche? Et est-ce que c'est la manière dont vous semble être abordé ces conflits par les observateurs, enfin qui ne sont pas seulement des observateurs extérieurs, c'est-à-dire les grandes puissances, soit les grandes puissances régionales, soit les grandes puissances internationales, la coalition menée par les États-Unis, puis la Russie. Ou bien est-ce que chacun essaie d'envisager le conflit de manière finalement limitée aux seules frontières, avec peut-être une répartition d'ailleurs des rôles selon les territoires?
Alors juste avant, j'aimerais juste rajouter quelque chose sur la dimension confessionnelle. Il faut faire attention. Je veux dire, ça nous pose un véritable problème, nous autres chercheurs universitaires. On a un problème de paradigme. On peut pas écraser toute la réalité sociale. On peut pas écraser toutes les dynamiques à l'œuvre et la violence sous le seul prisme du confessionnalisme. On peut effectivement éclairer, mettre en perspective cette polarisation, l'expliquer. On peut remonter plusieurs siècles. On peut remonter au début de l'islam, mais il faut pas oublier aussi ce qui s'est passé au lendemain des printemps arabes. C'est-à-dire que l'arme du confessionnalisme a été utilisée par les monarchies du Golfe comme arme principale pour contrer la révolution. Ça a été leur principale arme idéologique pour se réimposer sur une scène politique qui leur échappait, puisque leurs principaux alliés, les alliés les plus solides des monarchies, se sont effondrés les uns après les autres, à commencer par Ben Ali et Hosni Moubarak en Égypte. Donc l'arme du confessionnalisme a été utilisée par ces puissances, par ces monarchies qui aujourd'hui se veulent les gardiennes en fait du sunnisme. Et c'est quelque chose qui est important. C'est ce qui explique une bonne partie de la trajectoire de la révolution syrienne, du mouvement, du soulèvement de la population contre Bachar el-Assad. Puisque derrière le confessionnalisme, il faut voir aussi quels sont les outils de ce nouveau confessionnalisme aujourd'hui. Ce sont évidemment, Hamid a mentionné la transhumance militaire. Effectivement, cela fait depuis les années 2000 que on assiste dans cette région à un phénomène de migration. Il y a des des combattants qui sont aujourd'hui, qui se trouvent à s'employer sur différents théâtres de guerre et qui finalement créent des dynamiques, connectent plusieurs conflits. Vous aviez un phénomène de transhumance djihadiste entre l'Irak et la Syrie bien avant l'apparition de Daesh. Il y a aussi, je dirais, quelque chose auquel on ne fait pas suffisamment attention. Il y a la blogosphère. La blogosphère arabe aujourd'hui est quelque chose qui alimente férocement cette polarisation entre sunnites et chiites. Alors effectivement, la blogosphère a aussi joué un rôle dans le début du printemps arabe, mais aujourd'hui elle est devenue la principale ressource du confessionnalisme, de ce poison confessionnel. Il y a aussi l'instrumentalisation qu'en font les puissances, tous ces acteurs, tous ces prétendants au leadership régional, et derrière eux il y a aussi le jeu des grandes puissances. Il est évident que lorsqu'on entend les déclarations de Erdogan, les dernières déclarations juste avant le début de l'opération de Mossoul, il y a de quoi être sidéré. Il se revendique aujourd'hui comme la puissance tutélaire, le gardien du sunnisme levantin, et revendique au nom de ce statut qu'il ancre évidemment dans le passé ottoman de la Turquie moderne. Il exige un rôle, il exige un statut, il exige une zone d'influence qui s'étendrait grosso modo sur le nord de l'Irak et de la Syrie.
Mais alors justement, peut-être pour revenir à c'est évidemment très très intéressant.
C'est au nom de la défense de ce sunnisme que les Saoudiens ont déclenché une guerre au Yémen au printemps 2015.
Voilà, mais sur la question peut-être de la façon
étatique, voilà. Étatique, je dirais aujourd'hui étatique entre les mains de dirigeants qui n'ont pas d'autres ressources de légitimité. De quelles autres ressources de légitimité peut se prévaloir le leadership saoudien ou émirati ou qatari, oui, qui pourtant insuffle ce poison du confessionnalisme sur les différents théâtres de guerre dans la région.
Pierre-Jean Luizard.
Moi, je suis tout à fait d'accord pour dire qu'il y a l'utilisation du confessionnalisme comme arme politique de la part des pétromonarchies, mais il existe aussi une utilisation du confessionnalisme de la part de l'Iran. Et en ce qui concerne l'Irak, il faut rappeler qu'après les printemps arabes, la minorité arabe sunnite d'Irak a tenté pacifiquement de s'intégrer dans un système politique, et la seule réponse du gouvernement irakien, ça a été à l'image de la réponse de Bachar el-Assad, c'est-à-dire l'envoi de l'armée, de l'aviation et le bombardement à l'aide de barils bourrés de poudre. Donc, si effectivement le président turc Erdogan peut aujourd'hui se proposer comme une alternative à l'État islamique pour protéger les populations arabes sunnites, c'est bien parce que ces populations sont en danger de la part de l'État qui prétend les représenter. Les gens de Mossoul considèrent que le retour de l'armée irakienne serait un cauchemar pour eux, et probablement qu'une grande partie d'entre eux préféraient voir les Turcs ou les Américains plutôt que cette armée qui s'est conduite de la façon dont on connaît à Tikrit et dans beaucoup de villes reprises à l'État islamique. Donc c'est un contexte général où chacun aujourd'hui tire les ficelles en utilisant le confessionnalisme, mais ça n'est pas le fait d'un seul parti, c'est généralisé. Et que dire de la Russie qui a pris fait et cause pour un camp confessionnel, le camp chiite, contre une population avec laquelle elle est en guerre aujourd'hui.
Mais est-ce que la façon dont chacun justement tire vers ses propres intérêts ces différents conflits traduisent des stratégies qui paraissent quand même cohérentes d'un point de vue régional? C'est-à-dire qu'est-ce qu'aujourd'hui on assiste à une forme de recomposition du Moyen-Orient avec des plans ou des idées qui seraient un petit peu justement réfléchies à l'avance, ou bien est-ce que on est dans de la gestion au cas par cas de ces différents conflits avec des alliances qui paraissent parfois un peu aussi à géométrie variable selon le pays dans lequel se situent ces guerres, Hamid Bozarslan?
Pour répondre à votre question, mais aussi répondre un peu de...
Répondre
aussi par rapport à ce que Loulou Al-Rachid a dit. Je crois qu'on peut faire une comparaison avec les années 80 où on est en face de trois guerres, la guerre Iran-Irak, la guerre civile libanaise qui s'intensifie et la guerre d'Afghanistan. En Afghanistan, l'Union soviétique et les Américains sont présents, ils sont dans des camps opposés, d'ailleurs l'Union soviétique occupe l'Afghanistan, mais quand on voit que les deux autres conflits, on a l'impression que les marges de manœuvre et des États-Unis et de l'Union soviétique à l'époque, au Liban et entre dans la guerre Iran-Irak, sont extrêmement étriquées. Et aujourd'hui, on a l'impression qu'on est en face d'un phénomène analogue. Il y a des conflits qui se multiplient. Le phénomène de transhumance militaire existait déjà dans les années 80, puisqu'il y avait quelques 35 000 Arabes qui avaient participé à la guerre d'Afghanistan. Les frontières étaient devenues les lieux de production d'une violence extrême. La distinction entre les acteurs étatiques et non étatiques avait quasi disparu. On a l'impression que ces phénomènes-là aujourd'hui se reproduisent à une très grande échelle. On a l'impression aussi que, contrairement aux années 80, les sociétés s'effondrent. Là, c'est une nouveauté. Les villes s'effondrent. La civilisation urbaine en tant que telle s'effondre. C'est un phénomène à prendre en considération. Mais de l'autre côté, on a l'impression aussi que les acteurs qui pourraient avoir le rôle d'arbitre n'existent pas. Les Russes, effectivement, interviennent directement en Russie, en Syrie, comme allié. Mais si on regarde, par exemple, les marges de manœuvre de la Russie dans un pays comme le Yémen, on est en face vraiment d'une puissance qui est inexistante. En Irak, les Russes, pour le moment, ne peuvent pas jouer beaucoup de rôle. On a vu l'impuissance totale de la grande puissance américaine, aussi bien en Syrie qu'en Irak. En 2014, la ville de Fallujah tombe le 4 janvier 2014. Pour les Américains, c'est un fait divers, et ils attendent la chute de Mossoul le 10 juin 2014 pour se rendre compte qu'il se passe quelque chose.
Et c'est plutôt une absence de volonté qu'une absence de capacité.
Je pense que c'est une absence de capacité, mais aussi d'un aveuglement. L'incapacité de jouer le rôle d'arbitre. Je crois qu'effectivement, cette absence d'arbitre qui serait reconnue comme légitime par tous les acteurs est l'un des facteurs qui explique la durabilité du conflit. Cela signifie aussi que les marges de manœuvre de la Turquie, de l'Arabie Saoudite et de l'Iran se trouve élargie, mais on est en face d'une double matrice totalement asymétrique. D'un côté, il y a la matrice chiite. Le chiisme produit une radicalité, mais cette radicalité finit par renforcer la communauté chiite, y compris au prix de la violence interne, parce que le Hezbollah, on sait, utilise une coercition interne. Les acteurs irakiens, chiites irakiens, utilisent une coercition interne, mais il n'en reste pas moins que le chiisme se renforce à travers son engagement militaire, alors que l'Arabie Saoudite et la Turquie, ainsi que les autres pays du Golfe, sponsorisent un radicalisme sunnite, lequel devient très rapidement une surradicalité et finit par détruire la communauté sunnite elle-même. On l'a vu dans le cas de la Syrie. Il est tout à fait évident que c'est le pouvoir de Bachar al-Assad qui a confessionnalisé le conflit. C'était pas l'opposition au début, mais on sait aussi que du moment où le conflit s'est djihadisé, le conflit a été dévastateur pour les populations sunnites. En Irak, l'État islamique a vraiment porté un coup extrêmement dur à la communauté sunnite. Aujourd'hui, le même phénomène se produit aussi au Yémen, et on n'a pas beaucoup parlé de Liban. Au Liban, aujourd'hui...
Le Liban, on ne l'avait pas inclus dans notre discussion, parce que vous voyez, il est déjà presque 7h10. On n'y arriverait jamais au bout. Non, mais en tout cas, restons sur, si vous le voulez bien, sur cette question de la légitimité, de qui pourrait avoir la légitimité, finalement, de jouer le rôle d'arbitre dans cette région, puisqu'on a bien compris que ces conflits ont énormément de liens entre eux. Ça pourrait être qui, Loulou al-Rachid? Et imaginons que ce soit les Occidentaux qui prétendent avoir ce rôle. On imagine tout de suite le reproche qui leur serait fait de tomber à nouveau dans le néocolonialisme. Mais on voit pas très bien, finalement, qui aujourd'hui, alors à part peut-être les Nations Unies, mais que valent les Nations Unies dans la région? Que vaut l'action des Nations Unies dans la région aujourd'hui? C'est très compliqué, finalement.
Je crois qu'il y a le même problème de légitimité auquel sont confrontés les acteurs internationaux, et les acteurs extérieurs sont confrontés à ce problème de légitimité. Il n'y a pas aujourd'hui ni la capacité, ni la légitimité, ni même la volonté. Je crois qu'il y a même une certaine fatigue de la part des puissances, des grandes puissances vis-à-vis de ce Moyen-Orient chaotique qu'on n'arrive pas à réguler et qu'on n'arrive pas à stabiliser. Il y a certainement une grande fatigue, une lassitude et surtout la certitude que toute intervention extérieure finit par envenimer les choses, finit par rajouter un autre niveau de conflictualité, bien plus qu'elle n'enlève, qu'elle ne retranche à cette conflictualité. Et on le voit, les réalités sur le terrain sont extrêmement contrariantes, y compris pour la première puissance, une puissance qui a eu jusqu'à 170 000 soldats sur le sol irakien, c'est-à-dire les États-Unis, et qui effectivement voit tomber la plupart des grandes villes sunnites les unes après les autres, sans réagir véritablement. Je crois qu'aujourd'hui, le curseur se place bien plus, à mon sens, au niveau des acteurs régionaux, de tous ces prétendants au leadership régional. Effectivement, il y a la Turquie et l'Iran. Pour le moment, l'Iran semble l'emporter. Je suis entièrement d'accord sur ce que Pierre-Jean Luisard a dit. Aujourd'hui, l'Iran se paye le luxe d'être à la fois aux côtés des Russes à Alep et aux côtés des Américains à Mossoul. C'est une belle prouesse de la diplomatie iranienne. C'est une belle prouesse de leur interventionnisme dans l'ensemble de leur politique d'hégémonie dans cette région. Là-dessus, il me semble que la violence est loin de s'épuiser. Il y a encore, la région recèle en elle-même un énorme potentiel de violence. La violence est tout simplement payante. Elle permet à toutes sortes d'acteurs locaux de bouleverser l'échelle sociale, de subvertir l'ancienne stratification, de subvertir la représentation politique et ceux qui en avaient le monopole jusqu'à présent. Et derrière cette violence se joue aussi une guerre sociale, une guerre à l'intérieur de ces sociétés pour la représentation, pour l'accaparement des ressources. Et on le voit, les combats... On le répète pas assez, mais les combats, qui se bat aujourd'hui? Ce ne sont pas les enfants des classes moyennes urbaines qui se battent. Ceux-là, on les retrouve réfugiés en Europe. En revanche, ceux qui se battent, ce sont véritablement les marges de ces sociétés, les marges rurales, les marges extrêmement pauvres qui se battent, qui portent les armes. C'est bien là le problème. Aujourd'hui, il n'y a pas de projet. Il n'y a aucun projet politique. Le monde sunnite est en crise. Personne ne peut légitimement parler en son nom, le représenter, contrairement à ce qui se passe du côté chiite, où effectivement ce djihad pour repousser les excommunicateurs, les takfiristes, finit par renforcer la cohésion du groupe. Côté sunnite, ça produit de la division, ça produit des millions et des millions de réfugiés et de déplacés et de personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays.
Pierre-Jean Luisard, s'il devait y avoir un projet politique, d'où faudrait-il qu'il vienne pour qu'il soit légitime de puissances, grandes puissances internationales, des grandes puissances régionales, des sociétés elles-mêmes?
Alors je crois que c'est la grande force dont profite l'État islamique et le mouvement salafiste djihadiste, c'est qu'il est confronté à des coalitions totalement hétéroclites dont aucun acteur n'a le même projet que son voisin. On le voit très bien, qu'il s'agisse de la coalition dirigée par les États-Unis contre l'État islamique, qu'il s'agisse de la coalition dirigée par les Russes en Syrie ou de la coalition arabe au Yémen. Et je crois qu'il n'y a pas de possibilité pour les acteurs internationaux ou régionaux de réagir autrement, finalement, parce qu'ils sont tous paralysés par la peur, une peur qui peut très bien s'expliquer et qui correspond à un projet qui se met en place sous nos yeux, qu'on le veuille ou non, de remise en cause du système étatique et frontalier. Et ça, c'est quelque chose qui, évidemment, est la terreur de tout diplomate. Mais c'est un fait. Aujourd'hui, l'État irakien, comme on l'a dit, ne reviendra pas. Il est moribond et il ne renaîtra pas de ses cendres. L'État syrien est également très mal en point. Tous ces États ont pour point commun d'avoir des crises de légitimité parce qu'ils n'ont jamais représenté les identités du pays, qu'elles soient locales, irakiennes, syriennes, yéménites ou qu'elles soient panarabes.
Ça veut dire que si on suit cette logique de Pierre-Jean Luisard, il va falloir penser à redessiner les frontières. En tout cas, les pays tels qu'ils existent, en tout cas certains pays tels qu'ils existent aujourd'hui au Moyen-Orient, n'ont plus de véritable avenir dans leurs frontières actuelles.
À mon avis, les États qui sont en crise aujourd'hui sont des États moribonds et que nous devrions dont nous devrions anticiper la disparition. C'est probablement le grand défaut des coalitions anti-Daesh, c'est qu'au lieu d'anticiper ce que fait Daesh, la disparition d'entités étatiques qui ne vont pas renaître et qui ne vont pas revenir à ce qu'elles étaient avant, ils agissent pour restaurer ces États, la souveraineté de ces États. La France intervient intervient en Irak pour restaurer la souveraineté de l'État irakien sur Mossoul, alors que c'est la dernière chose que veut la population de Mossoul. Il y a un fait acquis et il faut reconnaître que cette situation de non-retour, seul le courant salafiste djihadiste l'a pris en compte parce que les autres sont terrorisés par le chantier qui semble ouvert, tel une boîte de Pandore. Mais encore une fois, quand quelque chose est irréversible, il vaut mieux anticiper un processus plutôt que de le nier.
Hamid Bouzarslan.
Oui, je pense que l'effet en 2011, on n'était pas dans cette situation. De la même manière, on l'a rappelé au XXe siècle, le Moyen-Orient était porteur de potentialités multiples. On aurait pu imaginer un tout autre Irak, une toute autre Syrie. Donc, et en 2011, je crois qu'effectivement, il avait encore pas mal de marge de manœuvre pour intervenir, y compris dans le conflit syrien. Et d'ailleurs, lorsque vous regardez les textes de l'opposition syrienne en été 2011, ils nous disaient exactement ce qui allait se passer, ça veut dire le mouvement va se militariser, par la suite il y aura inévitablement la confessionnalisation, inévitablement la jihadisation et on aurait des millions de réfugiés dans la rue de l'Europe, je veux dire tout ceci on le savait, mais en même temps on n'a pas été capable de lire ces signaux assez multiples qui venaient. Aujourd'hui j'ai l'impression effectivement que la fragmentation est allée beaucoup trop loin et c'est là que les failles structurelles ou les problèmes structurels de ces pays-là tout au long du XXe siècle apparaissent et se radicalisent. On sait que par exemple la Tunisie et l'Égypte ont été des États centralisés dès le début du 19e siècle et rien ne bougera en Tunisie ou en Égypte tant que Tunis et le Caire ne bougent pas. Il y a l'idée de faire société, y compris dans les conflictualités énormes telles que l'Égypte l'a connue. Or, Bagdad n'a jamais été une ville fédératrice. Bagdad a été en quelque sorte le butin à conquérir pour tel ou tel clique ou telle ou telle confession ou telle ou telle tout simplement tribu. Damas n'a jamais été une ville fédératrice. On sait qu'Alep a toujours continué à regarder un peu du côté de la Turquie, que Dara a été toujours dans la continuité avec la Jordanie. Donc effectivement, toutes ces continuités historiques, transhistoriques, enfin centenaires qui avaient été brisées à la faveur de la fondation de ces États-là, ont fait leur retour, non pas parce que cela était une fatalité, mais c'est là que les identités anciennes, les appartenances anciennes ont apparu comme les identités qui faisaient sens. Et c'est là qu'on voit aussi comment la question confessionnelle elle est revenue. Je crois que Pierre-Jean l'a souligné, Loulou Al-Rachid aussi. On n'est pas dans une histoire confessionnelle qui s'étalerait de la mort du prophète jusqu'à aujourd'hui. Mais lorsque la politique s'épuise, lorsque l'espace ne produit plus la société, lorsque effectivement la société se trouve en manque de repères, d'autres phénomènes interviennent, d'autres repères interviennent, c'est la tribu. Et lorsque la tribu ne suffit pas, c'est la violence extrême qui apporte la confession.
Justement, est-ce que faire ce constat aujourd'hui, ça n'est pas aussi, c'est peut-être pour ça qu'il est difficile à faire entendre, donner raison en partie à l'État islamique, justement, qui est aussi né de cette remise en cause et des États et des frontières telles qu'elles avaient été dessinées, Loulou Al-Rachid.
Je crois que il me semble que paradoxalement, au-delà de la phraséologie de l'État islamique, la phraséologie anti-saïx-picot, anti-frontières héritées des puissances mandataires, au-delà de ça, ces frontières extérieures, ces frontières étatiques ont paradoxalement une véritable résilience. En revanche, ce qui me semble beaucoup plus problématique à négocier au sein de ces sociétés, ce sont les frontières intérieures. Ce sont les frontières entre communautés, les frontières, les lignes de séparation. Il me semble que il s'est produit un changement. Aujourd'hui, on est dans la clôture communautaire. Personne n'aspire à ce que les grandes villes du Proche-Orient ont pu incarner un jour, c'est-à-dire un peu des lieux de brassage, des lieux de culture, des lieux de cosmopolitisme. Aujourd'hui, les communautés, les groupes aspirent à la clôture. Ils veulent une armée, une police, des forces de sécurité recrutées parmi leurs membres et qui les défendent contre l'autre.
Ça veut dire que l'option fédérale, par exemple, ça peut être une option envisageable?
Si on reformule les choses dans des termes beaucoup plus acceptables dans le jargon des spécialistes de la transitologie, de ces modalités de sortie de l'autoritarisme, on peut parler de fédéralisme. La solution fédérale est quelque chose c'est quelque chose qui a été imposé aux Irakiens en 2003. C'est quelque chose qui n'a pas réussi à stabiliser ne serait-ce que les relations entre les Kurdes et les Arabes depuis 2003 en Irak. Et c'est quelque chose qui pose toujours problématique. On peut aussi euphémiser les choses et parler de décentralisation. Il s'agit de redonner le maximum de prérogatives aux communautés, aux régions, et de finalement déposséder cet État central de toute capacité, de le maintenir comme simple interlocuteur vis-à-vis du monde extérieur.
Le Liban, ça n'a rien résolu, au contraire.
Hein. Oui, mais...
On était à Beyrouth il y a 10 jours et on a pu effectivement faire le constat que voilà, le Liban, système multiconfessionnel n'était pas tout à fait... aussi performant qu'on le dit.
Centraliser sur une base communautaire, ça enferme les gens. Au contraire, ça interdit tout espace public. Hein. On le voit au Liban. Et ce qui se passe en Irak, ce fédéralisme, ça n'est pas une décentralisation comme nous, on pourrait la proposer en France. C'est une communautarisation sur des bases ethniques et confessionnelles à partir d'identités qui sont des entités où on voit bien que les uns et les autres revendiquent des territoires pour lesquels ils sont prêts à faire la guerre. Donc on n'est pas dans un fédéralisme à la Suisse.
Hein. Absolument, absolument. Mais le fait est que, hélas, par exemple, les différents scrutins en Irak depuis 2006 ont été quand même gouvernés par la loi du vote communautaire, c'est-à-dire un sunnite a voté pour un sunnite.
Non, pas les derniers scrutins. Les derniers scrutins ont donné justement la majorité à des listes qui condamnaient le confessionnalisme. Que ce soit l'état de droit ou les dernières élections, les Irakiens se sont prononcés contre le confessionnalisme et tous les mouvements à Bagdad de cette année, de l'été passé, contre les coupes d'électricité ont lié la lutte contre le confessionnalisme à la lutte contre la corruption.
Voilà, et comme souvent, c'est à la fin de l'émission que naissent les petites divergences parfois entre les spécialistes. Merci beaucoup en tout cas à tous les trois de nous avoir éclairés sur ces conflits qu'on a tendance à traiter séparément, à juste titre aussi, mais il faut aussi de temps en temps voilà, avoir une approche peut-être un peu plus globale. Merci Loulou Al-Rachid, Pierre, Jean Luizard et Amit Bozarslan. Vos ouvrages respectifs, c'est sur notre site comme chaque soir, franceculture.fr, la page du grain à moudre. Demain, à qui profite la fin du bureau ? Ce sera la question que nous poserons à partir de 18h20.